France Inter. Le 18-20, Fabienne Saint-Es.
L'idée nous est venue en regardant les programmes télé, tiens, et les réseaux sociaux aussi. Cette émission sur M6 mardi dernier, qui n'a pas très bien marché d'ailleurs, c'est intéressant, et qui met les pieds dans le plat, ou plutôt dans le botox. Elle est la première à banaliser les injections de ce genre, puisque la science est là, et bien allons-y gaiement et vive le rajeunissement de 10 ans. Sauf qu'en fait, quand on regarde les statistiques, ce ne sont pas les plus vieilles d'entre nous, ni les plus vieux d'ailleurs, qui ont recours au botox, au collagène, ou plus loin, même au relèvement des pommettes, au relèvement des fessiers, à la rhinoplastie, aux prothèses mammaires. Ce sont les plus jeunes qui y vont. Qu'est-ce que ça dit de nous quand on veut renvoyer une image parfaite de plus en plus tôt? Est-ce que cette banalisation est un vrai souci? Quand on touche à un visage ou à un corps, à quelle histoire touchons-nous aussi? Qu'est-ce qui se passe quand on ne se ressemble plus au fond? Qu'est-ce qu'on doit répondre à celles qui disent qu'elles veulent les lèvres de Rihanna ou la cambrure de Beyoncé? Comment se fait-il que la première chose que l'on dit souvent à une femme qui revient de chez le chirurgien, c'est trop visible, c'est trop souvent, c'est trop différent peut-être aussi? Et les hommes, d'ailleurs, dans tout ça, on en parle ensemble ce soir. Et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Charlotte, c'est vous qui commencez. Bonsoir Charlotte et bienvenue.
Bonsoir, merci beaucoup.
On vous écoute, allez-y.
Moi j'ai 33 ans et j'ai effectué une rhinoplastie il y a 18 mois. C'est une opération que je voulais faire depuis mes 18 ans, je crois. J'avais pris même rendez-vous avec un chirurgien à ce moment-là. Et puis mes parents étaient un petit peu réticents, donc j'avais annulé. Et puis voilà, jusqu'à l'année dernière, je n'osais pas sauter le pas. Et puis parce que j'avais peur des expériences ratées qu'on peut voir sur Internet, parce que j'avais peur de changer de visage, j'avais peur que ça change ma personnalité, puisque c'est ce que les autres me disaient, mon entourage notamment. Et puis finalement, j'ai pris ce rendez-vous un peu sur un coup de tête, et 2 mois après, je me faisais opérer.
Et alors?
Je suis très contente. Non, je suis très très contente. Finalement, ça a pas tellement changé mon visage. J'avais une bosse sur le nez, donc ça a changé mon profil, mais de face, ça change pas grand chose. Je me sens mieux. Je ne rougis plus lorsqu'on me regarde de profil. J'ai pas l'impression vraiment d'avoir fait de la chirurgie esthétique. Parce que cette bosse-là, je l'avais pas enfant, je l'avais pas adolescente. Je l'ai eu plus tard. Donc j'avais pas l'impression de dénaturer mon visage. Et ce qui m'importait, c'était le regard de mes parents qui tout de suite m'ont dit « On t'a fait avec le nez lisse, t'as voulu retrouver ce nez lisse, peu importe, ça change pas ta personnalité, tout va bien. »
C'est intéressant ce que vous nous dites. Juste en un mot, en sortant en fait cette frayeur dont vous parlez, que ça rate, que de ne plus vous reconnaître, ça a été comment? C'est au moment où on enlève les bandages, en fait, tout simplement, et finalement on se dit « Oh ben finalement. »
Non, alors quand on enlève le premier plat, parce que j'ai eu deux plates, quand on enlève le premier plat et qu'on se découvre, moi j'ai fondu en larmes parce que j'avais des bleus partout sur le visage, ouais. et puis c'est très bizarre en fait, vraiment finalement ça changeait quelque chose sur mon visage auquel je me suis habituée, mais surtout on est tout boursouflé de partout, donc le résultat final je le vois vraiment maintenant.
Okay.
Pendant quelques mois, c'est vrai que j'ai un peu serré les dents et j'avais peur, et le regard des autres et les appréciations étaient très importantes.
Et comment vous respirez?
Très mal.
Non, parce que voilà, c'est ce que j'allais vous poser la question, parce
mal.
Que moi aussi j'ai entendu beaucoup de choses sur
c'est-à-dire très mal, je ronfle la nuit, ça
c'est comme un souci de plus respirer. Charlotte, c'est quand même un petit souci.
Et surtout j'avais posé la question à ce chirurgien qui m'avait dit pas de souci, moi je suis ORL, donc il y a pas de problème, la cloison nasale, tout ça, ça me connaît, c'est super. En fait non, je pense que clairement là-dessus ils ont fait un truc de chirurgie esthétique basique, on respire pas, on s'en fout, l'intérêt c'est qu'elle n'ait plus sa bosse. Donc là c'est vrai que je suis un peu j'ai un petit goût amer par rapport à ça, mais bon.
Ça s'arrange ou pas ça? Vous pouvez, quoi, il faut retourner sur le billard,
retourner et vraiment j'y retournerai pas parce que ça reste quand même très douloureux.
D'accord, ok. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, pardon de vous avoir tenu si longtemps Charlotte, mais merci vraiment,
merci beaucoup
pour votre témoignage, pour discuter ensemble jusqu'à 20h ce soir. Anne Gottman est là, bonsoir, vous êtes sociologue, Gottman ou Gottman d'ailleurs, on me l'a dit, j'ai oublié, voilà, ben maintenant je le sais. Sociologue, auteur de La chirurgie au scalpel, c'est aux éditions Libère, et Jean-Christophe Seznec est là aussi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, vous avez écrit J'arrête de lutter avec mon corps et c'est publié chez PUF. Moi j'aime bien ce qu'elle nous raconte, Charlotte, à bien des égards en fait. Ce qui m'intéresse le plus, d'abord c'est la frayeur de départ, et elle dit « J'avais peur que changer de visage, ce soit changer de personnalité ». C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, Anne Gottman, ça ou pas?
Oui, oui. On l'entend, et je l'ai dit, on l'entend de la part des chirurgiens esthétiques qui, eux, j'allais dire, ont vendu la profession en disant que c'était une chirurgie de l'âme, que ça guérissait, que c'était au fond
Que vous irez mieux dans votre tête si vous avez un nouveau-né.
Beaucoup mieux, et absolument, une thérapie qui était beaucoup moins longue qu'une psychothérapie, et que oui, ça guérissait de bien des maux psychiques. Donc oui, c'est une histoire qui se raconte, en effet.
Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous voyez, vous, des gens qui vous disent « je vais tellement mieux dans ma tête depuis que j'ai un nouveau-né, d'autres pommettes, un lifting, peu importe ce que c'est, en fait ». Est-ce que c'est vrai pour certains, en tout cas, ou pas?
Oui. Oui, je me souviens une interviewée qui me disait la chirurgie esthétique c'est le bonheur. Elle était débarrassée d'un surpoids et donc parce que ce sont des gens qui généralement, si vous voulez, ceux qui font ont recours et celles ont recours à la chirurgie esthétique sont des gens qui s'occupent beaucoup d'eux, plus que la moyenne. Et donc qui ont vis-à-vis de défauts à leurs yeux une très grande intolérance.
Jean-Christophe Seznec, là-dessus, sur ce rapport entre le visage et aussi la personnalité.
C'est pas aussi simple que cela, parce que notre corps est une référence à nous. Et il y a un certain nombre de cas où on peut avoir des syndromes délirants après opération, parce que on continue à avoir une vision déformée de son nez et on peut... D'ailleurs, c'est un gros sujet de procédure entre les médecins d'esthétisme et la justice, parce que... on fantasme un nez, on fantasme quelque chose, et puis on a des yeux déformants qui ne voient pas la réalité. Et la personne peut parfois même décompenser des troubles psychotiques à travers ces opérations. Donc c'est pas aussi simple que ça. C'est une prise de risque. Certaines personnes peuvent avoir des bénéfices, mais un certain nombre de personnes peuvent avoir des problèmes.
C'est pour ça que certains ou certaines cumulent, additionnent les interventions jusqu'à imaginer, ressembler exactement à ce qu'ils ont, ils ou elles ont imaginé.
Oui,
ou pas, ou ça va plus loin que ça.
La difficulté, c'est ce qu'ils imaginent et dans leur tête et pas dans la réalité. Et ce qui fait la beauté d'une personne, c'est pas notre plastique, c'est notre attitude, c'est notre cœur, notre fragilité. Or, on va chercher des réponses dans le corps, dans quelque chose d'existentiel.
Et au fond, j'allais vous demander, qu'est-ce qui se passe quand on ne se ressemble plus, en fait? Est-ce qu'on a parfois le sentiment de ne plus se ressembler? L'un ou l'autre, Anne Gottman peut-être. Qu'est-ce qui se passe quand on ne se ressemble plus, en fait? Est-ce que c'est un risque, au fond, qu'on n'a pas anticipé?
Après, vous voulez dire après?
Bien sûr,
oui.
Après.
Je pense que ça peut causer des grands désordres. Parce que il y a qu'à voir justement ce que provoque le fait de ne pas ressembler à ce qu'on voudrait être déjà, qui est une perturbation chez ces personnes majeures. Donc quand on n'est pas soi-même après, moi je ne soigne pas ces gens, mais j'imagine qu'ils ont besoin de soins, oui.
Qu'est-ce qui se passe avant qu'on retourne au standard? Moi, j'ai cette curiosité-là. Quand on ne se ressemble plus, c'est une chose. Mais vous voyez, je reprends l'exemple de notre amie Charlotte avec ses parents qui lui ont dit « je t'avais fait avec un hélice, ben, comme ça tu l'as retrouvé ». Est-ce que c'est parfois un problème de ne plus ressembler à sa famille, en fait, à ses parents, à sa mère, quand on est le portrait craché de sa mère ou pas?
Alors oui, ça peut être un problème, au contraire un soulagement. Moi, j'ai vu justement une femme qui a dit « je suis, après la chirurgie esthétique, je suis enfin moi ».
D'accord.
Je ne ressemble plus à ma mère.
Et donc, pour certains, c'est tant mieux. Jean-Christophe Seznec, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut savoir anticiper? Vous n'allez plus, sur la photo de famille, en gros, ben, il n'y aura plus le même nez que toute la famille trimballe depuis des générations. Est-ce que vous en parlez, ça, éventuellement, avec les patients?
Oui, on peut en parler. Après, le tout, c'est de pouvoir l'assumer. Les choses, c'est un problème si on en fait un problème, comme beaucoup de choses. Nos variations corporelles, comme nos ressemblances. Le tout, c'est de pouvoir l'assumer. Et de toute manière, on est les enfants de ses parents. Et il y a aussi à guérir cette filiation. On est à la fois le produit de ses parents et à la fois, on est une création qui est là pour s'émanciper dans la vie. Et derrière toutes ces chirurgies esthétiques, c'est souvent des enjeux existentiels où on va se battre contre notre corps. Or, l'enjeu est souvent ailleurs. Ce qui fait la beauté d'un livre, c'est certes la couverture, mais c'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur.
Mais est-ce que ça veut dire que vous arrivez, même si c'est pas le but, à en dissuader beaucoup, en fait, en parlant finalement, qu'ils se rendent compte que oui, c'est pas dans le nez, la poitrine ou ailleurs que se situe le problème, en fait, ou pas?
C'est pas à moi de leur dissuader.
Alors, c'est pour ça que j'y mets des nuances.
C'est à chacun de choisir. Ce qui est important pour moi n'est pas forcément important pour mes patients. Mais j'essaye de les aider à observer où est leur problème et à vraiment le situer et pour voir si cette réponse-là va fonctionner pour répondre à leur problème ou pas. Après, c'est à eux de choisir.
Anne, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue,
Anne. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Merci de prendre mon appel. Alors, Fabienne, moi, c'est une question très directe. J'ai 68 ans. Je n'ai jamais eu de complexe de ma vie. Et voilà que depuis 2 ans, mes bras se mettent à plisser. Mais alors, à plisser, c'est horrible. À ce point, mon mari me dit, ma pauvre chérie, tu sais plus quoi faire de ta peau. Mais c'est vrai.
Envoyez-moi votre mari.
Alors, est-ce que c'est judicieux à mon âge d'intervenir chirurgicalement ou pas? Parce que je me dis que plus je vais vieillir, plus la peau s'affine. Si je fais ça pour que ça dure 2 ou 3 ans, c'est pas la peine. Ou que ce soit pire encore après, c'est pas la peine. Donc, c'est un conseil en fait.
Eh ben, écoutez, on va essayer de vous le donner, bien qu'on n'ait pas de chirurgien autour de cette table, mais on va essayer de vous le donner quand même. Vous parlez de sous les bras, c'est ce qu'on appelle les ailes de Batman, c'est ça? Les ailes de chauve-souris, en quelque sorte, non mais...
Écoutez, ça va du dessous, comment on appelle ça, l'aisselle, oui, l'aisselle, jusqu'au coude. Mais ça plisse réellement à ce point que l'été, je ne me mets plus de trucs, comment on s'en manche, hein.
Merci beaucoup Anne pour ce témoignage et pour vous, votre joie de vivre aussi d'ailleurs qui passe évidemment. Alors Jean-Christophe Cesnec, vous n'êtes pas chirurgien esthétique, on est d'accord. Moi je trouve ça intéressant de se dire à 68 ans que subitement, attends, bon d'accord j'ai 68 ans mais enfin est-ce qu'on peut arranger ça d'un coup de bistouri finalement ou d'un coup de quelque chose? Après tout, est-ce qu'il y a un âge?
Il n'y a pas d'âge limite, on est libre de tout. Après c'est un choix personnel, est-ce qu'on a envie de s'offrir ça? Est-ce que ça va vraiment nous aider à mieux vivre? Ou est-ce que bien vivre, c'est assumer ce qu'on est et oser être soi? Moi, je crois qu'on n'est jamais aussi bien qu'on est soi-même. D'ailleurs, moi, l'un de mes dadas, c'est le new burlesque. C'est les feuillages grotesques et clownesques. Et moi, j'envoie souvent mes patients à des cours de new burlesque pour jouer d'elles-mêmes, pour avoir un rapport punk et clown sur elles-mêmes, parce que c'est pas le problème, c'est pas le corps qu'on en a, c'est ce que l'on en fait.
Et en même temps, Anne Gottman, moi, ce qui m'ennuie chez notre amie Anne, c'est qu'elle dit, je mets plus de t-shirt.
Oui.
Et non, je veux dire, mettez des t-shirts, Anne.
Moi, j'ai le cas d'une femme qui m'a dit, oui, il arrive à peu près la même chose, et sa petite fille lui dit, mais mamie, pourquoi tu as des petits volants? Eh ben, c'est devenu des petits volants, et c'est devenu un objet de drôlerie. Voilà. Et elle peut porter ses petits volants. Elle peut aussi ne pas mettre de t-shirt.
C'est un choix vraiment personnel et c'est à chacun de décider.
Bonsoir Prune.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue Prune.
Merci.
Allez-y.
Oui, je vous appelle pour témoigner d'un fait, c'est que moi j'ai subi, on va dire ça comme ça, une chirurgie esthétique, j'avais 25 ans, j'en ai 39 aujourd'hui. J'avais ce qu'on appelle une ptose mammaire, donc j'avais les seins, on va dire ça, en gants de toilette.
Ok.
Donc quand vous grandissez avec ça, vous n'avez qu'une envie, c'est de changer complètement de profil. Et donc j'ai attendu 25 ans et j'ai fait cette opération, qui a été bénéfique dans un sens. Et dans l'autre sens, l'idée que je voulais faire passer, c'est que j'avais perdu une part de sensation du fait d'avoir fait cette chirurgie esthétique. Donc on n'est pas sur des implants mammaires, on n'est pas du tout sur un grossissement, on est bien d'accord là-dessus, on est sur l'idée de remodeler une poitrine, quoi. Voilà. Donc on peut perdre, on a des cicatrices d'une part, et surtout on perd en sensibilité. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais transmettre.
Mais toujours maintenant, en fait.
Oui, toujours, toujours, même 15 ans plus tard. Oui, bien sûr.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Prune. Anne Gottman, moi, 25 ans plus tard, enfin un peu moins, pardon, je me souviens plus de l'âge de notre auditrice Prune, mais
15 ans
plus tard, ouais, en gros, il faut choisir entre les sensations et l'aspect extérieur. En gros, c'est ça que ça veut dire.
Oui. Oui.
Il n'y a pas d'autre, alternative.
Et ça, c'est quelque chose qu'on chante, effectivement, dont on ne parle jamais. De même que ce dont parlait la première auditrice, qui est toute cette période entre l'opération et l'état, je dirais, normal, où on passe par une des visages tuméfiés qui sont assez, où souvent les femmes disent qu'elles ont, elles regrettent, elles passent une période épouvantable.
Mm-hmm. Allez-y, Jean-Christophe Cézenac.
Disons que toute chose a un coût.
Faites toujours rire quand les gens lèvent le doigt, très poliment, je vous en prie, allez-y.
Toute chose a un coût, et on voit bien que le coût, ben, c'est éventuellement perdre cette sensibilité, c'est cette année où on va prendre du temps pour retrouver son nez. Après, c'est à chacun de bien évaluer, est-ce qu'on est prêt à payer ce coût-là, et est-ce qu'on est prêt à prendre le risque que ça fonctionne pas aussi bien que ça dans son équilibre psychique.
Marlène de Lorient voit à quoi je faisais référence quand je parlais de cette émission d'M6 qui est toute nouvelle, où on verra d'ailleurs s'il y aura un deuxième épisode. Je trouve ça plutôt intéressant que ça n'ait pas si bien marché que ça, preuve que on n'en est pas non plus peut-être à ce stade-là, mais qui dit en gros cette émission ne fait passer que des candidates. Pourquoi ces injonctions faites aux femmes? Alors on sait, on y viendra peut-être, j'espère que des hommes vont nous appeler, que de plus en plus d'hommes aussi font la chirurgie esthétique. Jusqu'à quel point pensez-vous, Anne Gottman, qu'on en est, qu'on est toujours dans les injonctions de la féminité, les choses auxquelles on doit ressembler, les canons qui doivent être ceux qui doivent être les nôtres, etc.
Oui, ça, si j'ose dire, dans ce sens-là, les femmes ont toujours une grosse avance, hein, l'obligation qui leur est faite de plaire. Mais l'écart entre hommes et femmes
est en train de se resserrer.
Oui. Et puis surtout s'agissant, j'allais dire, d'un problème qui est celui de l'insatisfaction. L'insatisfaction, il y a, je crois, un pourcentage qui a été mesuré de personnes qui disent avoir une insatisfaction corporelle. Mm-hmm. Ça va jusqu'à des 70-80% de la population. C'est un marché gigantesque qui est sans limite. Et donc la chirurgie esthétique, ben, touche ce marché-là, de l'insatisfaction. Il va toucher les hommes aussi.
Mais est-ce qu'elle s'est réellement banalisée? Parce que malgré tout, c'est cher. C'est très très cher. Même des choses basiques, sans faire appel à la chirurgie, simplement les injections, le botox et ces choses-là, c'est que 300 euros l'injection. Tout ça est très cher, en fait. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train aussi de faire une vraie barrière sociale entre ceux et celles qui peuvent et ceux et celles qui peuvent pas?
Oui, mais c'est de moins en moins cher. Et quand on voit le prix des smartphones qui est accessible à tout le monde et comment pourtant ils sont très chers, et ben on
peut être 4 injections pour un smartphone.
On peut être tenté de s'offrir des injections comme on s'offre un smartphone parce qu'on veut être dans le mouvement, on veut continuer à appartenir à ce qu'on imagine de la norme dans le groupe.
Et alors, la norme, ça dépend où on va la chercher. Je donnais les exemples tout à l'heure. Il paraît que Instagram, peut-être que vous l'avez vu, vous aussi, a fait exploser les demandes parce que on arrive avec une photo et qu'on dit, voilà, c'est ça les lèvres que je voudrais, c'est ça les pommettes que je voudrais, c'est ça la fossette que je voudrais. En quoi ça dérégule intégralement ce marché-là, en fait? Et en quoi c'est peut-être plus dangereux quand on arrive avec ce genre de modèle, selon vous?
Parce qu'on nourrit l'image, on vient répondre aux angoisses existentielles des gens, on veut répondre à l'imaginaire des gens, et cette vacuité de notre époque qui est pas très spirituelle, et ben c'est ce consumérisme un grand boulevard devant lui.
Mais peut-on répondre non? C'est-à-dire, enfin, un chirurgien peut toujours dire non, j'imagine. Très sincèrement, sont-ils nombreux à dire non? Au fond, quand on leur dit « je voudrais les lèvres de Rihanna ».
Il y a beaucoup de chirurgiens esthétiques qui disent non et qui essayent de renvoyer vers des psychologues, des psychothérapeutes. Ils sont très prudents parce qu'ils en savent tous les risques. Et puis après, ils en savent tous les risques judiciaires par la suite du fait de l'insatisfaction. Donc heureusement, en France, on est très très prudent. Ce qui n'est pas forcément le cas outre-Atlantique. Et souvent, on a des émissions comme la vôtre sur ce thème-là en France, parce qu'on imagine que c'est comme aux États-Unis et ce thème revient assez régulièrement.
Bah c'est l'une des raisons qui nous a fait y venir, parce qu'on a le sentiment que cette dérive, on y va doucement. Si on veut, si on commence à faire des injections à des femmes, si pour une émission suivante, on les fait maigrir de manière très spectaculaire, sachant très bien que à la fin, peut-être, non seulement on le regrette, mais surtout, on reprend le poids derrière. Enfin, tout ça est très, très compliqué. Donc, cette dérive-là à l'américaine, comme vous dites, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est à ça désormais? On est en train de la toucher chez nous ou on a encore des garde-fous?
On est encore bien sage et heureusement, on n'est pas encore tombé dans cette folie.
Anne Gottman.
Oui, enfin, je sais pas le mesurer si vous voulez, mais bon, ce qu'on constate quand même, c'est que l'âge rajeunit, hein, c'est-à-dire que les sont les plus jeunes, les très jeunes qui commencent à postuler, si j'ose dire, avec parfois effectivement des refus. Mais ça veut dire que ça entre dans les mœurs quand même.
Le risque, c'est d'avoir une vision fantasmée de soi où on va s'offrir un tatouage, on va s'offrir ses lèvres et puis on va essayer de construire son identité. Sauf que ça marche pas comme ça.
Non, voilà, c'est bien, c'est moins qu'on puisse dire. Jean-Paul, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous arrivez pile au bon moment, allez-y Jean-Paul.
Oui, alors moi je suis papa d'une fille de 16 ans, et avec mon épouse, on a été très surpris parce que on lui a demandé ce qu'elle voulait à Noël, et elle veut une séance de chirurgie esthétique pour son nez, et qu'elle trouve trop gros. Donc, on ne sait pas trop quoi, quelle réponse apporter, et en lui faisant comprendre qu'une fois qu'elle sera passée sous le bistouri, on ne pourra pas changer, on ne pourra pas revenir en arrière. Mmh. Voilà, donc quelles conséquences, et puis je pense qu'elle est prise aussi dans un phénomène de mode, ses copines ont un recours à ça, et voilà.
Elle a des copines qui ont eu recours à ça à 16 ans, vous voulez dire?
Oui, c'est tout à fait. Et elles font toutes, elles demandent toutes à peu près le même cadeau, si je puis dire.
Et le même nez aussi, époque. Je dis ça sans plaisanter, et aussi le même nez ou pas?
Ah, ça, je ne sais pas. Ça, on ne sait pas.
Et du coup, Jean-Paul, est-ce que vous savez ce que vous allez lui répondre à votre fille?
Pas trop, non. C'est pour ça que je vous appelle.
Eh ben, on va essayer de vous aider. Je ne sais pas si on y arrivera, mais Jean-Christophe Seznec. On a fini sa croissance à 16 ans. Non, mais sérieusement, est-ce qu'on a le visage qui est...
Non, pas complètement. Mais je crois qu'il faut lui raconter l'histoire de Sandrine Kiberlin, si je me souviens bien, qui a eu pendant tout au long de sa carrière une grosse pression pour qu'elle elle se fasse opérer de son nez. Elle a toujours résisté et refusé. Et finalement, son nez fait partie de sa personnalité et son identité. Mmh. Et finalement, elle est unique grâce à ça. Et elle en est très
Barbara
belle.
Regardez Barbara Streisand, par exemple,
elle en est très belle.
Qui vient donner la même injonction.
Et le risque de l'opération, c'est d'être devenir une simple bimbo, c'est-à-dire ressembler à la voisine et perdre son identité. Donc, quelle est la folie d'être elle-même et de s'offrir une carrière à Sandrine Kiberlin, si éventuellement, en tout cas dans son domaine professionnel, et d'oser d'être soi.
Il y a quelque chose d'assez fou dans ce témoignage de Jean-Paul, parce que autant, bien sûr que les gamins ont envie de se ressembler les uns des autres, en fait. Ils veulent les mêmes t-shirts, les mêmes baskets, etc. Mais là, on est quand même dans un degré, Anne Gottman, qui est quand même beaucoup plus supérieur que simplement avoir les mêmes baskets. Mais je veux l'opération du nez comme ma copine, puisqu'elle l'a faite, après tout, pourquoi moi?
Moi, j'avais ça un essayage identitaire, c'est-à-dire effectivement, de même qu'on essaye, on veut des baskets, on veut ce nez, etc. Et c'est vrai que c'est redoutable. Mmh. C'est justement parce qu'à cet âge, la pression de la conformité est énorme. Mmh. Donc, c'est, j'allais dire, une frange de population très, très vulnérable.
Allez-y, Jean-Paul.
Et c'est là que votre rôle, cher auditeur, est à jouer. C'est-à-dire que les adolescents ont besoin d'avoir des parents, excusez-moi du terme, cons. Mm. C'est-à-dire de dire non.
Ouais, de savoir dire non.
Ouais. Dire non, c'est n'importe quoi. Et de toute façon, je t'aime. Hein, il faut que ça va avec. Ils ont besoin d'être inondés par amour. Je t'aime, t'es belle telle que tu es.
J'allais vous demander, est-ce que c'est vraiment un argument qui marche? C'est comme dire à quelqu'un qui est dépressif, mais enfin, la vie est belle. Quand on se sent pas beau ou pas belle, est-ce que c'est un argument qui marche? Peut-être à 16 ans, en effet.
C'est pas dire qu'elle est belle. C'est que moi, je te trouve belle. Mmh. Et moi, je t'aime telle que tu es. Donc ça, c'est mon avis personnel de parent ou de père. Et je suis libre de penser ça. Et je suis libre de dire une limite et d'oser être con dans le sens, je veux rien savoir, c'est comme ça, je mets la règle.
Et ben voilà, Jean-Paul, vous avez votre méthode pour essayer de convaincre votre fille. Bonsoir, Ambroise.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Alors, moi, je suis un garçon, j'ai entendu surtout des
femmes.
Mais
je suis bien contente que vous soyez là, du coup.
Alors, je suis presque un collègue, parce que lorsque j'avais 27 ans, je présentais le journal à FR3 Bourgogne.
D'accord.
Là, maintenant, j'ai 66 ans. Et donc, un chirurgien esthétique, que je ne connaissais absolument pas, mais qui m'a vu à la télé, a dit « Oh là là !» Donc, il m'a téléphoné, il m'a dit « Mais il faut recoller vos oreilles. » J'avais vraiment des oreilles feuilles de chou. En plus, je portais la queue de cheval, ce qui était assez original à l'époque, mais donc je présentais le journal comme ça, et donc on voyait bien mes oreilles à la Gainsbourg. À l'école, je me souvenais qu'on m'appelait cerf-volant, et puis il me dit, alors je n'ai pas vraiment réfléchi, vous savez, c'est des choses comme ça spontanées. J'ai dit oui, et je suis passé sur le bistouri, mais quelques jours après, il m'a dit, oh, ça va durer une semaine, et puis tout. Résultat, effectivement, mes oreilles sont magnifiquement recollées, Mais j'ai eu mal pendant 2 ans. J'ai dû dormir avec un bandeau.
2 ans.
Ah oui, ça a duré 2 ans. Chaque fois que non, je pouvais pas dormir sur les oreilles. Alors peut-être qu'à l'époque,
vous pouviez pas dormir sur vos 2 oreilles.
Non.
Coïncidence, je ne crois pas.
et c'est pas une histoire à dormir debout. Et je peux vous dire encore que maintenant, quand je suis chez le coiffeur. Parce que j'ai plus ma queue de cheval, on me soulève, on me tire les oreilles pour faire la découpe à l'arrière, et ben ça me fait mal, je le sens encore.
Mais est-ce que vous, esthétiquement, Ambroise, vous regrettez ou pas? Au fond, vous avez eu l'impression de perdre une partie de vous-même, au fond, en perdant votre tête?
Non, franchement, j'ai pas eu, il n'y avait pas encore de cellule psychologique à l'époque pour. Oui, effectivement, ça a changé. Quand je regarde les photos, c'est vrai que ça a complètement changé, ça a un petit peu allongé mon visage. Non, esthétiquement, je pense que c'était une réussite et que c'était bien vu. Maintenant, c'est vrai, comme vous avez cité avant, il y a des comédiens, puisqu'ils ont le visage tordu, plus qu'ils sont sympathiques. À la réflexion de ce que je viens d'entendre, si ma fille me demande « Papa, j'ai envie de faire ça à la 21 ans », ben je lui dirais « Non, ne le fais pas, c'est une bêtise, non, t'es très bien comme ça, on t'aime comme tu es, et tout. » Je pense qu'il vaut mieux, lire Proust en entier que de passer chez le chirurgien esthétique. Enfin, il y a d'autres moyens pour retrouver sa personnalité et se relancer dans la vie et tout. Maintenant, le sympathique chirurgien dont je ne me souviens plus le nom, c'est peut-être fait un peu de publicité comme ça, je ne sais pas. Je pense que c'était vraiment quelque chose de...
Il pensait vous faire plaisir et au fond...
Oui, mais il m'a fait plaisir. Non, c'est vrai que c'est... Non, mais c'est vrai que, objectivement, si je vais sur le site de l'INA et que je regarde, c'est mieux après qu'avant. Mais autrement, comme c'était mieux avant sur France Inter, quand il n'y avait pas toutes ces publicités.
Ah, je vous remercie pour ce placement de... Placement de grondement à l'instant, à l'antenne de France Inter.
Non, c'est insupportable, on se croirait sur RTL. Okay, non, mais c'est vrai, il y a des fois. Bon, j'arrête.
Merci,
mais non, autrement,
Ambroise.
Je dis que... Voilà.
Revenons à vos oreilles,
et
si vous le voulez
bravo
bien.
Bravo pour vos émissions, elles sont formidables.
Merci beaucoup, merci Ambroise. Il y a 2 choses qui m'intéressent dans ce que vient de nous dire Ambroise, en dehors de ses remarques diverses et variées. Anne Gottman, il faut quand même le savoir, ça fait mal. Non, mais sérieusement. Et là, on parle de quelque chose de très banal, se faire recoller les oreilles, ça a l'air d'une simplicité.
Non.
Eh ben, visiblement, non, ça fait mal.
Et puis, ce monsieur n'a pas parlé non plus d'un autre problème qui peut arriver. C'est par exemple, si on doit porter des lunettes, ça peut être un handicap terrible. Enfin, oui, c'est pas neutre, c'est pas anodin.
Ouais, c'est ça.
Ça n'est pas anodin.
C'est peut-être ça qu'il faut dire et redire, même si ça paraît, même si on y a beaucoup réfléchi, etc. C'est jamais neutre, Jean-Christophe Stesnec, c'est jamais anodin.
On a l'impression qu'on est des Lego. En fait, ça fonctionne pas comme des Legos, on change pas une pièce et puis on remplace par l'autre, on est des êtres humains, c'est plus complexe que ça.
Et je voudrais qu'on enchaîne directement, puisqu'on entendait Ambroise à l'instant, avec Frédéric, qui a une pointe de déception lui aussi, c'est le deuxième homme de la soirée, soyez le bienvenu Frédéric.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Bonsoir. Pour faire court, je me suis fait faire des implants capillaires il y a plus de 20 ans à peu près. J'avais 30 ans, j'étais complexé, je perdais mes cheveux, voilà, et j'ai entendu parler de ça, donc je l'ai fait. Et en fait, les années passant, je me suis assumé pour pas mal d'autres choses, mais je vois que le regard des gens a changé, des gens que je connais pas forcément, ils me regardent pas dans les yeux en fait, ils regardent mes cheveux. Donc.
Parce que vous pensez que ça se voit en fait, c'est ça l'idée, est-ce que ça se voit?
Oui, mais c'est pas que je pense que ça se voit, c'est que
ça se voit.
Quand je suis en direct avec une personne, ça se voit un peu quoi. Ça se voit pas énormément, ça a été très bien fait, mais ça se voit. Et puis les années passant, je perds encore un peu mes cheveux, donc du coup, ça continue à se voir. Et je pense que j'aurais été un très beau chauve. Donc j'ai fait ça. Je me suis pas vraiment renseigné sur. J'ai pas vraiment pensé à ce que mon corps allait devenir. Et je pense que j'ai fait une erreur. Aujourd'hui, ce sera à refaire, je ne le referai pas.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Frédéric. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Anne Gottman, j'aurais fait un très beau chauve.
Oui.
30 ans, c'est très tôt. Après tout, on bouge dans la vie. C'est intéressant pour les gens qui nous écoutent et qui sont désespérés d'une certaine partie de leur corps ou de leur calvitie ou de je ne sais quoi d'autre.
Oui.
30 ans, c'est jeune.
Oui, mais bon, c'est vrai que les chauves se portent mieux maintenant. Enfin, j'allais dire, c'est devenu une mode.
En plus, il y a une mode, ouais, absolument.
Donc, peut-être ce monsieur, à son époque, c'était pas une option aussi.
En tout cas, c'est intéressant de voir que les normes change.
Exactement.
Il y a 20 ans, d'être chauve, d'avoir un aérodrome à mouche, c'était terrible. Aujourd'hui, c'est différent. Même dans l'aspect physique des femmes, dans les années 70, il fallait être filiforme. Avec Rihanna et Kardashian, bah, la mode est passée aux fesses plus volumineuses. Donc, il n'y a pas de vérité. Les choses évoluent. Et souvent, les transformations physiques, elles sont immuables. Elles sont inscrites dans le marbre, on ne peut pas les changer. Et la mode, par définition, change.
Dans les remarques que faisait Frédéric, il y a le fait que les gens le voient, en fait. Est-ce qu'au fond, les gens ne le voient pas toujours ou pas? Quand, parce que j'imagine que c'est la phrase qui revient souvent, moi je veux bien que vous me tiriez la peau, je veux bien, etc., mais je veux que ça fasse naturel. Est-ce qu'au fond, c'est pas un fantasme, ça, et quelque chose qui n'existe pas? Parce que, à partir du moment où on touche, de toute façon, ben, ça cesse de faire naturel. Ou pas? Je sais pas. Jean-Christophe Seznec.
J'ai pas d'études là-dessus, mais je sais que souvent, ça m'arrive à titre personnel de me poser des questions quand je vois certaines personnes. Je trouve qu'il y a un déséquilibre dans le visage. Et je me dis, tiens, il n'y a pas eu quelque chose. J'ai le doute. Après, je n'ai pas plus d'études que cela, mais en effet, il y a toujours ce risque.
Anne Gottman, ça existe, le vrai naturel, au fond, enfin, toucher quelque chose en disant je veux que ce soit naturel, c'est bah, du coup, n'y touche pas.
Si, tout le monde veut, c'est
bien sûr,
la quadrature du cercle. Mais je trouve qu'il y a aussi autre chose qui va exactement au sens inverse dans la société américaine. Alors, je pense pas, ne suis pas sûre qu'on tombe là-dedans, mais c'est que, au contraire, l'idée, la norme, c'est de faire de la chirurgie esthétique, sinon, c'est de la négligence. C'est-à-dire, il y a même en 33, un chirurgien
en 1933,
qui disait dans 20 ans, il allait un peu trop vite. Il sera aussi inconvenant d'être laid et de paraître vieux que d'avoir l'air sale. Et donc, et aux États-Unis, quelqu'un qui ne se fait pas retirer la peau, etc., est négligent.
Alors, il faut lire le livre de Boris Vian, Tueur à tous les affreux. Où dans ce livre, dans une société idyllique, on élimine tous les affreux, et finalement il reste une dizaine d'affreux. Et à ce moment-là, toutes les filles ne se jettent que sur elles parce que ça devient exception. Donc génial.
Ça va faire plaisir à plein de gens d'entendre ça. Semelle sur franceinter.fr qui dit qu'on arrête de me parler de beauté intérieure. J'ai 54 ans, je me suis fait opérer des poches sous les yeux, l'expérience a été très positive. Dans le même ordre d'idée, voici Martine. Bonsoir Martine.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute Martine.
Bonsoir. Moi, j'ai attendu 67 ans pour me faire opérer. Je ne me reconnaissais plus dans la glace. Je voyais ma mère. Et un jour, après avoir hésité pendant des années, j'ai pris rendez-vous chez un chirurgien à Boulogne-sur-Mer qui m'a fait ce que je désirais. C'est-à-dire, il m'a retendu un peu la peau, il m'a refait les paupières et le tout est très naturel. Pas de botox, rien. Mais j'ai retrouvé mon visage d'avant. Je peux me regarder dans une glace et me voir. Voilà.
Et alors, visage d'avant, c'est quand avant, en fait, Martine?
Il y a 10 ans.
Et est-ce que, du coup, dans ces cas-là, on a la tentation d'y retourner pas?
Ah non, pas du tout. J'ai obtenu ce que je désirais. Je ne veux pas avoir l'air d'une gamine de 40 ans.
J'ai raison. Moi non plus, je
les
aime pas.
Satisfaite du résultat. Alors, j'ai encore des rides, j'ai un peu de poche sous les yeux, je suis grand-mère et je ne veux pas que mes petits-enfants me considèrent comme une bimbo, justement, mais je peux me regarder dans la glace sans voir ma mère et ma grand-mère.
Voilà, bah écoutez, comme ça au moins c'est dit. Merci beaucoup Martine pour votre témoignage. On va tout de suite entendre Pierre qui est chirurgien esthétique et qui nous appelle en écoutant cette émission. Je voudrais quand même avoir votre avis, Anne Gottman, là-dessus, parce qu'on en parlait au début. Je ne veux pas ressembler à ma mère et j'ai les moyens de pas ressembler à ma mère. Ou en tout cas, peut-être pas tout de suite en tout cas.
C'est moi la personne qui m'avait dit la chirurgie esthétique c'est du bonheur, c'était exactement ça, c'est-à-dire... être débarrassé de ce parasitage identitaire, en fait, qui est lié au vieillissement. C'est-à-dire, j'imagine que le visage, à un certain âge, perd ses caractéristiques.
Bien sûr.
Et tombe. Voilà. Et bon, mais il y a des expériences réussies. Enfin, cette dame en est visiblement un exemple.
Alors, je suis contente de pouvoir le partager avec vous, en effet. C'est aussi ce que nous dit Pierre, qui est chirurgien esthétique lui-même. Bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Tout d'abord, merci pour prendre mon appel. Merci pour votre émission. Oui, moi, je voulais juste revenir sur les différents témoignages et pourquoi abonder dans le sens des derniers témoignages et nuancer les propos et juste dire que dans une grande majorité des cas, les patients sont quand même très, très contents des interventions. Et même s'il y a parfois des conséquences à titre de douleur ou d'œdème post-opératoire, la plupart du temps, ça rentre dans l'ordre et les patients ne s'en plaignent pas du tout.
Pierre, est-ce que vous faites partie de ces chirurgiens qui savent dire non, par ailleurs,
qui disent non? Oui, la première chose, c'est effectivement aller dépister le ou la, entre guillemets, mauvaise patiente, où c'est pas une indication de chirurgie esthétique. Il faut réorienter, comme l'a dit justement quelqu'un avant moi, vers un psychologue. Et pour elle, et aussi pour nous, pour éviter tout risque judiciaire.
Parce que pour le coup, tiens, deux questions, puisque vous avez écouté l'émission. D'abord, la jeune fille de 16 ans, la fille, je me souviens plus de son prénom, je crois qu'il s'appelait Jean-Paul, qui viendrait. Qu'est-ce que vous lui dites à cette jeune fille de 16 ans?
Alors, déjà, il faut examiner ses patients et voir s'il y a une vraie indication chirurgicale ou pas, que ça soit pas juste un caprice, ou effectivement, si c'est pour ressembler à une photographie d'Instagram, là, c'est une contre-indication, faut surtout pas le faire. S'il y a une vraie raison, une grosse bosse, et qu'elle souffre psychologiquement d'un complexe important, alors ça peut se discuter. Chez une mineure de 16 ans, j'aurais tendance à dire non et à attendre, au moins quelle est la majorité. Et après, en discutant avec elle, on peut porter l'indication, mais pas forcément dire non, c'est pas une bonne idée, il faut jamais se faire opérer du nez. C'est pas vrai. S'il y a vraiment un gros complexe, c'est une bonne intervention.
Et du coup, puisque je vous tiens, et il nous reste 8 secondes, Pierre, pardonnez-moi, puisqu'on a eu Anne tout à l'heure qui voulait savoir si ça servait à quelque chose de se faire opérer des fameuses ailes de Batman quand on a 68 ans. Est-ce que le chirurgien esthétique que vous êtes peut lui répondre rapidement, allez-y, pourquoi pas,
allez-y, pourquoi pas, si elle est en bon âge physiologique, l'âge numérique, c'est pas forcément l'âge physiologique. Si elle est en bonne santé, en bonne forme, ça peut effectivement avoir une bonne indication et lui rendre service.
Eh bien, écoutez, je suis contente qu'elle ait pu avoir sa réponse. Pardon de vous couper, mais le retour. Merci beaucoup. Merci vraiment à tous pour vos nombreuses questions et portez-vous bien.